RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est secrétaire général de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alain.
Ainsi que Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir en invité Gérard Beckerman, qui est président de l'AFER, l'Association française d'épargne et de retraite. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors, il paraît que vous avez débuté votre carrière aux côtés de Raymond Aron, d'abord en France, puis après du côté de Los Angeles. Racontez-nous.
Oh, c'était passionnant. J'avais 23 ans, j'étais déjà marié, je cherchais un job, j'arrivais d'Allemagne. Et puis, je suis allé voir Aron, que j'aimais beaucoup. Et puis, ça tombait bien. Il avait déjà un assistant, Pierre Manin, qui est toujours actif aujourd'hui au Collège de France. Et puis, moi, comme économiste. Et puis, il m'a recruté tout de suite et je suis resté 3 ans avec lui.
En France et également donc en Amérique, les États-Unis, c'était une belle expérience.
C'était pas avec lui. Ah non, l'Amérique, c'était extraordinaire. C'était à partir des Jeux Olympiques de 84. Hey. Et là, j'avais eu un statut de visiting professor. On m'avait donné 2 cours. Et c'était d'autant mieux qu'à l'époque, c'était sous Reagan, le dollar flambait. Ça valait, je ne sais pas, 10,50 francs, 10,60 francs pour un dollar. Donc, c'était agréable que de passer 2 mois et demi à Los Angeles pour enseigner à ces étudiants américains la politique monétaire américaine. L'écu, la monnaie européenne, ouais. C'était très exotique. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça figurait dans aucun polycopier américain. Donc, je les ai briefés sur la politique monétaire, les institutions financières, etc.
Vous occupez toujours aujourd'hui de la chaire de finance à l'ESSEC ?
Non.
C'est terminé ? C'était une belle aventure quand même de s'en occuper ?
C'était très bien. C'était un certain Jean-Michel Blanquer, qui était directeur général de l'ESSEC, qui me dit, je le connais bien, il avait été mon patron, il avait été recteur. Moi, je suis universitaire, je suis resté pendant 28 ans à la fac. Et puis Blanquer, on était très liés. Et comme il m'a dit, j'ai besoin de financiers comme toi, est-ce que tu veux que nous créions ensemble une chaire de finance ? Et j'ai dit oui. Surtout qu'il y avait des domaines de prédilection, comme les modèles de valorisation d'options. Ouais. J'étais assez calé sur cette question. Et c'était bon pour ces étudiants.
Un mot sur l'historique de l'affaire, tout débute en 1976.
Oui, c'est une belle épopée. Ces deux hommes qui l'ont, surtout un, Gérard Attias, qui l'a créé en 1976, un peu en confrontation, en opposition aux compagnies d'assurance traditionnelles. À l'époque, c'était les AGF, c'était l'UAP, c'était le GAN. Et puis, ils ont eu une idée, et il a eu une idée assez révolutionnaire, c'est-à-dire de mettre en place une association souscriptrice qui serait dispensée de la taxe de 5 1/4 que toutes les compagnies d'assurance devaient payer à l'époque, mais comme il avait un statut associatif, il n'y avait pas besoin de payer cette taxe. Et puis c'était flamboyant. Le succès a été immédiat. Moi-même, j'ai adhéré en 1987, donc il y a plus de 30 ans, donc je suis un enfant de la maison. Et puis c'était une belle initiative. C'était très drôle quand j'ai adhéré à l'affaire. On était avec Attias à un colloque d'économistes à Lyon, à la Tête d'Or. Et puis comme lui et moi, on s'ennuyait beaucoup. Moi, avec raison, parce que je suis économiste, donc je n'avais aucune raison d'écouter trop de choses. Et puis les économistes sont des gens très particuliers. Quand on donne le prix Nobel à quelqu'un une année, l'année d'après, on le donne à celui qui dit le contraire. Donc c'est très, très, très relatif.
Et aujourd'hui, l'affaire, ça représente quoi ? Vous êtes 800 000
On a près de 800 000 adhérents. Tous les quarts d'heure, un Français adhère à l'affaire, qu'il soit modeste ou fortuné. On peut adhérer avec 100 euros à l'affaire. Et donc, on gère une épargne d'à peu près 60 milliards d'euros. Je dirais, quel que soit un ancien ou un nouvel adhérent, qu'il ait adhéré en 1976 ou en 2022, qu'il soit fortuné...
Riche ou fortuné.
Oui, ou modeste, ou qu'il soit, je dirais, âgé ou jeune, c'est le même taux. Oui. On a donné l'un des meilleurs taux du marché l'année dernière, en janvier 2022, 1,70, alors que toutes les compagnies d'assurance qui doivent rémunérer des actionnaires, qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, qui doivent remonter du capital.
Pourquoi vous êtes meilleur qu'eux ?
Parce qu'on n'a pas de capital à rémunérer. Et donc, on a aussi un ADN, une philosophie qui est très particulière. C'est même mieux que le mutualisme. C'est une association 1901. Une association qui est à but non lucratif, donc l'affaire, elle appartient à ses adhérents. Elle n'a pas de patron. C'est pour ça que quand Aviva...
Alors vous êtes quand même le patron, Gérard.
Mais je suis le patron, mais quand je ne le serai plus, je serai toujours adhérent. Je suis surtout adhérent et après, je suis patron. C'est pas non plus...
Alors, quel regard vous portez sur l'épargne à la française? Vous avez 3 heures.
Pour répondre?
Oui.
C'est 3 de trop. L'épargne, elle est mal rémunérée. Elle a un pouvoir d'achat. Et je dirais que c'est une incivilité de la part des pouvoirs publics. Parce que c'est se moquer du monde que de donner des taux si faibles alors qu'il y a une inflation, de donner des taux si faibles alors qu'il y a des prélèvements sociaux, fiscaux, qu'il y a une instabilité juridique, parce que quand on est député, on veut attacher son nom à des lois, à des amendements, donc on raconte n'importe quoi pour que ça puisse passer en cherchant des majorités. Et heureusement, l'affaire est la seule, finalement, institution en France et même en Europe qui se bat pour préserver, je dirais, la stabilité des règles fiscales, qu'il n'y ait pas de bouleversement, car les députés ont la bougeotte. Ils ont la bougeotte, ils veulent absolument changer les choses, surtout celles qui marchent bien. Et c'est très curieux, je regardais un film de Jean Gabin, par hasard. C'est ma mère qui m'avait reconnu.
La traversée de Paris.
Non, Le Président.
Le Président, oui.
Vous l'avez vu?
Oui.
Et on voit, donc Président, c'est-à-dire c'était sous la 4e République, c'était un président du Conseil qui avait les fonctions de Premier ministre, et il fait le procès d'une trentaine de députés les uns après les autres. C'est extraordinaire ce film que j'ai revu hier soir. Et je crois qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on a des élus de la République qui, parfois, pas tous, heureusement, confond un intérêt très particulier avec l'intérêt et le bien public. Donc il faut faire très attention, et je le dis. Et en matière de fiscalité de l'épargne, eh bien on se bat. Et on a plutôt bien maintenu, grâce à notre action, je dirais, les règles fiscales. Bruno Le Maire a joué le jeu. Je dois dire, on a été un peu complices, je le connais bien, il adore parler allemand avec moi, il a fait Normal Sup, donc il est très à l'aise. Et moi, je suis alsacien, donc je n'ai pas de qualité particulière.
Vous êtes à l'aise avec tout le monde, l'alsacien est à l'aise avec tout le monde.
Non, mais il est, je dirais, c'est nous qui avons obtenu dans la loi Pacte la possibilité de sortir du père de manière libre.
Ouais. Alors, vous sillonnez la France tout le temps, là. Vous serrez combien de mains, si je puis dire, j'ai une louche, de mains par an, là, à l'époque, quand on pouvait serrer la main? Ou s'embrasser d'ailleurs.
Si je m'étais présenté à la députation, j'aurais eu 300 000 voix, parce que j'ai serré 300 000 mains.
Que c'est...
Mais ce n'est pas mon ADN, le politique.
Ouais.
C'est plutôt une cible qu'un ADN.
Une cible, bon, voilà.
Une cible pour aller dans le bon chemin, dans ce qui rend les gens heureux.
Ah, le bonheur.
Le bonheur, c'est un bien grand mot, mais ce qui les rend plutôt heureux, c'est-à-dire gais, satisfaits, qui ont quelques économies pour eux-mêmes, pour faire face aux aléas de la vie et pour transmettre. L'assurance-vie, elle a quelque chose de très existentiel. Quand on meurt, on a l'impression de continuer à vivre parce qu'on la transmet à ceux qu'on aime bien, son conjoint, ses enfants ou des bénéficiaires.
Son chat pour la Gefeld.
On n'a pas le droit, le chat.
On n'a pas le droit au chat?
Non, on pourrait doter une association d'animaux, mais pas un chien directement.
Arnaud?
Oui, je suis très heureux, effectivement, de pouvoir vous parler. En vrai, parce que quelque part, vous incarnez à la fois un chef d'entreprise, et je suis sûr que nos auditeurs sont très intéressés par les produits que vous représentez, et également un universitaire, un intellectuel. Alors, je vais commencer par l'universitaire, l'intellectuel. J'ai lu que vous étiez... très attaché à Friedrich Hayek. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait à nous dire aujourd'hui?
Tout. Hayek est un visionnaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme, c'était pas. Je l'ai rencontré une fois à un colloque, je crois que c'était en 76. J'étais étudiant. Et il m'impressionnait parce qu'il était issu de la grande école autrichienne. On avait eu une discussion dans sa langue maternelle et il était visionnaire, mais il n'était pas politique. C'était un peu comme Mises, comme Hayek, comme Aron, c'est-à-dire des intellos avec qui aimaient profondément, qui étaient empathiques, la nature humaine, et qui avaient un doute terrible sur la décision publique. Et un jour, Hayek et Aron étaient ensemble et j'étais là, tout jeune étudiant. Et ils me disent, c'est Aron qui sort cette phrase extraordinaire devant Hayek, qui dit, quand un... à l'époque, on les appelait les socialistes, mais c'était surtout des marxistes, comme Garaudy, vous voyez. Quand un marxiste, un socialiste doute, il ne l'est déjà plus. Mais quand un libéral doute, il l'est encore plus. C'est-à-dire, c'est la culture du libéral que de douter. Parce que dans le doute, on prend, comme on n'a pas de dogme, on n'a pas, je dirais, de doctrine, on n'a pas d'idéologie, on aime bien, comme une autodérision intellectuelle, se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on peut éviter les sottises et que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Mais quand on a affaire à des gens dogmatiques, que voulez-vous ? Ils n'ont pas de vérité. La vérité qu'ils ont, elle est nourrie par des lectures souvent malsaines, déviantes, et qui donnent lieu à toutes sortes de radicalités, comme celles qu'on peut connaître aujourd'hui, à toutes sortes de philosophies des valeurs qui ne sont pas agréables pour vivre et pour inculquer à des enfants et à des jeunes. Donc Hayek a été, je dirais, il faut revoir ses livres. Il y a, la plupart de ses livres ont été traduits en français, pas tous. Et le premier qui a été le plus pénétrant, c'était « La route de la servitude ». Où il explique notamment tous les crimes, les malheurs, les traumatismes, les génocides, les révolutions auxquelles la doctrine socialiste... Je ne parle pas des socialistes d'aujourd'hui. Hein.
Les vrais d'avant.
Les vrais. C'est-à-dire l'ADN. Hayek aurait été certainement beaucoup plus tolérant avec des socialistes comme Ségolène Royal, comme bien d'autres, qu'on peut, comme Valls ou d'autres, ou peut-être notre président de la République. Et c'est un socialisme, je dirais,
d'ouverture.
De bonne composition, d'ouverture et de dialogue.
Arnaud ?
C'est pas les vrais socialistes que Hayek et Aron avaient pu connaître.
Bon, alors cette fois-ci, on va parler du produit maintenant. Oui. Parce que je pense que dans nos auditeurs, parmi nos auditeurs, 99% doivent avoir un contrat d'assurance vie. Donc là, je m'adresse cette fois-ci au patron de l'affaire. Oui. L'affaire joue effectivement un rôle très important de lobbying en France. Enfin, lobbying assumé, hein, conseil des pouvoirs publics. Quels sont aujourd'hui, à votre avis, les batailles ou les enjeux pour faire progresser l'assurance vie ? Sur quoi vous vous battez aujourd'hui ?
Sur tout ce qui peut contester l'assurance vie. On s'est déjà beaucoup battu depuis que je suis président de l'affaire, depuis un peu plus de 15 ans. Il y a eu des grands enjeux. Et je me souviens, évidemment... je l'entends sonner, je vais l'éteindre, mais un portable, j'ai le portable de notre président de la République, du Premier ministre, du ministre des Finances, je peux...
Vous leur avez volé à tous leur portable ?
Non, je ne l'ai pas volé, c'était un recel, puisqu'ils me l'ont donné eux-mêmes. Ça venait des deux, ça venait pas de moi. Et donc, quand il y a des grands enjeux, il y en avait un, il y a quelques années, lorsque François Hollande était président de la République, concernant l'héritage. Et ça revient à la mode d'ailleurs, et l'héritage. Et curieusement, et François Hollande m'avait reçu avant même qu'il ne sache qu'il ne serait pas président de la République, donc il espérait se représenter. Et c'était en mai, alors que mai, un an avant la présidentielle de 2017. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, on a un gros sujet. 20 millions de Français détiennent un contrat d'assurance vie. Il y a 35 millions de bénéficiaires de ce contrat. Ça représente, et je fais exprès que ma langue fourche, 35 millions d'électeurs. Et alors je lui ai dit, pardon, d'épargnants. Et il faut respecter ces gens. Parce qu'il n'y a pas que des millionnaires. Ce sont des gens qui ont travaillé toute une vie pour mettre quelques économies de côté et qu'ils aimeraient pouvoir transmettre dans des bonnes conditions le moment venu. Et puis, il y avait une doctrine qui avait paru au BOFIP. La doctrine, évidemment, les auteurs qui étaient députés étaient aussi des notaires, notamment l'un des deux. La doctrine Proriol-Baquet. Voilà deux députés de l'époque. Et cette doctrine, c'est l'affaire qui a réussi à la faire abolir grâce à cette rencontre avec François Hollande.
Mais c'était à quelle époque ça...
C'était en 2016.
D'accord.
En 2016, c'est-à-dire l'abolition, grâce à moi ou grâce à l'affaire, l'abolition de la doctrine Proriol-Baquet. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je peux mourir tranquille, tu ne payeras pas d'impôts sur l'assurance.
Il n'y a pas de loi à mon nom, contre je verrai quelque chose.
Si je meurs. Et ça, c'était très fort, parce que réussir à faire abolir une doctrine fiscale qui rapporte des sous à l'État, c'était quand même difficile. Mais l'enjeu, je dirais, social, l'enjeu humain, l'enjeu politique de la décision l'emportait sur, je dirais, les...
Écoutez, mercantile, les produits, de garder les sous.
L'approche mercantile du budget d'État.
Ludovic.
Déjà, effectivement, c'est très impressionnant quand on vous écoute. Ça fait la deuxième fois que je vous rencontre et j'ai eu l'occasion de vous croiser au Wine. On vous écoute avec passion, on boit vos paroles. Je me suis noté, vous êtes, pour moi, ce que Hayek représente pour vous. très impressionnant en matière, effectivement, de vision. Déjà, j'aimerais qu'on parle des profils de clients présents à l'affaire. Est-ce que vous accompagnez des corporates également, des entreprises ?
Oui, on a des contrats de groupe, on appelle ça l'article 82. On a un deuxième contrat de groupe, l'article 83. Exact, merci Alain.
L'article 82, sans que le troisième, on va le trouver.
On a des milliers d'entreprises qui souscrivent à un contrat de groupe. Oui, les entreprises sont clientes, adhérentes de l'affaire.
Très bien. Ça amène une deuxième question, notamment, on a parlé d'inflation tout à l'heure. On voit que le marché est... Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais on pressent effectivement que l'inflation va se renforcer dans les prochaines années.
Oui.
Comment vous faites aujourd'hui pour accompagner justement les petits porteurs, les souscripteurs par rapport à cette inflation et la façon dont vous allez réussir à apporter un maximum de rendement par rapport à leur épargne ?
C'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui une déconnexion, j'allais dire hélas, pour les épargnants individuels, une déconnexion entre la hausse des prix. On est sur un rythme annuel d'à peu près qui va approcher les, je sais pas, les 8%. C'est considérable. C'est exactement comme au début des années 80, je m'en souviens. C'est pour ça qu'il ne faut pas exclure une très forte hausse du dollar, d'ailleurs. Et donc, il y a, les épargnants sont pénalisés. Ils sont pénalisés parce que le pouvoir d'achat, il est fortement contrarié quand on a des revenus, il est annulé quand on a des revenus de transfert et il est anéanti quand on a une épargne. Et c'est une question, je dirais, de démocratie. Moi, si j'étais à Bercy, je ferais d'abord un règlement numéro 1 du Code des impôts qui n'existe pas aujourd'hui. Et je dirais qu'en cas de doute sur une interprétation fiscale, comme il peut y en avoir, la preuve qu'il y a des doutes même dans l'administration fiscale, c'est qu'il y a des procédures judiciaires. Parfois, l'administration les gagne, parfois, elle les perd. Donc, il y a vraiment des doutes. Eh bien, appelons notre ministre des Finances, son autorité, ou le Premier ministre ou la Première ministre, pour rédiger, je peux l'aider, je tiendrai la plume, il faut deux lignes, un article 1 du Code général des impôts qui dirait qu'en cas de doute sur une interprétation fiscale, ce qui doit prévaloir, c'est la confiance légitime du citoyen. Et vous savez, ce concept de confiance légitime, un grand préfet de la République, le préfet Steinmetz, qui fait partie du comité des sages de l'affaire, qui était membre du Conseil constitutionnel, a été la confiance légitime, une notion très forte en droit, parce que c'est en utilisant cette notion que le Conseil constitutionnel a formulé des avis négatifs opposés à certains amendements ou doctrines de l'administration. Donc, je crois qu'il y a un respect des gens qu'il faut absolument introduire dans l'esprit des politiques. Et les politiques, il faut arrêter de trop les critiquer, il faut plutôt les aider dans un esprit de dialogue, de concertation, et faire en sorte qu'ils émettent une bonne monnaie, qu'ils respectent une bonne épargne. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut en finir avec un système terriblement répressif en matière de fiscalité de l'épargne, et je ne parle même pas que des transmissions. Mais les propositions qu'on peut entendre à gauche, à droite, surtout à gauche, hein. Mais à droite, non, certains députés MoDem sont pas très éloignés des préconisations d'un programme radical comme celui qui est proposé aujourd'hui à l'occasion des législatives. Donc, il faut se méfier en permanence. Je crois que c'est une question de civilité, de respect d'une parole donnée, des engagements et de démocratie financière, de faire en sorte que les 35 millions d'épargnants bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie, eh bien, puissent avoir, je dirais, de l'oxygène. De l'oxygène pour respirer avec cette épargne, qui n'est pas une épargne de millionnaire, mais qui est une épargne pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face, pour aider un enfant, pour acheter un petit appartement quand il se mariera, des dépenses imprévues, d'éducation, de santé, et puis le plus bel aléa, c'est-à-dire la transmission le moment venu.
Demain, Gérard, Christine Lagarde quitte la BCE. Ça vous tente comme job ?
Non. Non. Pour que je l'aie, il faut deux conditions. La première, c'est qu'on m'appelle.
Bon, ça c'est joie, vous avez 10 téléphones. Aussi.
Elle tend... J'ai pas le sien. Je défends celui de Christine Lagarde, c'est curieux. Non, j'aime bien, c'est une femme compétente. J'étais même pas au courant qu'elle quittait la BCE.
Non, mais c'est une supposition.
Ah, c'est une supposition,
Si demain elle part, oui.
Non, et la deuxième condition, c'est qu'il faut que je veuille.
Ouais. Et alors ?
Je ne suis pas... Non, j'avais laissé entendre que j'aurais été... passionné par une responsabilité au ministère de la Culture, mais comment on ne m'a pas appelé.
J'avais pas même... encore, regardez Rosine, on l'a appelé tardivement aussi. Hein.
Et ce que j'ai dit d'ailleurs à une certaine personne, je lui ai dit, tu sais, si tu m'appelles en me proposant la rue de Valois le matin, pour le prix de un portefeuille, je t'en ferai deux, je prendrai Bercy l'après-midi.
Merci beaucoup Gérard, merci également à vous Ludovic et Arnaud, fans de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.